Chapitre 95. Dans les locaux de la police scientifique, section traces et documents, Nicolas avait les yeux rivés sur l'EDD, l'Electrostatic Detection Device, une grosse machine cubique de la taille d'une photocopieuse qui permettait de détecter les foulages, c'est-à-dire la pression exercée par une mine, par exemple, sur des documents. L'examen était assez complexe. Le premier post-it du bloc avait été placé sur un plateau en bronze poreux dans des conditions d'humidité et de température réglementées. S'ensuivait une série de manipulations. Plaquage du document par une pompe aspirante, électrisation de la feuille, pulvérisation d'une poudre révélatrice qui se déposait dans les dépressions du papier, qui devait révéler la présence d'un foulage ou pas. Le technicien était en train de recouvrir le post-it d'un adhésif transparent pour fixer le foulage.
« Ça a bien fonctionné. Les traces sont très claires et ne laissent place à aucun doute. Voici ce qu'a noté votre homme sur le post-it précédent. »
Nicolas observa l'échantillon avec précaution. Des coordonnées GPS étaient présentes. 11 degrés, 23 minutes, 40,40 secondes nord. 142 degrés, 38 minutes, 48,38 secondes est. Il ressentit une profonde jouissance. Un feu qui ranimait les flammes, qui lui prouvait que sa traque n'était pas vaine. Comme disait Charcot, ces hommes-là avaient des failles, et c'était comme si leur édifice était en train de s'effriter. Il recopia méticuleusement les coordonnées. Le post-it allait rester dans un sachet à sceller pour s'ajouter aux pièces à conviction du dossier, tout comme cette lettre de peau qui serait elle aussi passée au crible. Nicolas remercia le technicien et retourna au 36. Charcot le vit foncer vers son ordinateur.
« Alors, j'ai... »
Nicolas lança Google Earth, un logiciel puissant qui permettait de naviguer de façon très précise sur n'importe quel endroit de la planète, notamment à partir de coordonnées GPS. Les hommes prirent place derrière lui. Quatre paires d'yeux fatigués étaient désormais rivés vers le globe terrestre en trois dimensions que le capitaine venait d'afficher sur son écran. Il entra les coordonnées exactes dans la case de recherche. Il lui suffisait d'appuyer sur une touche, une simple touche, pour que le logiciel leur révèle l'emplacement de la chambre noire. Il regarda ses collègues.
« Vous pariez sur quoi ?»
Cazu haussa les épaules.
« Je n'en sais rien. J'espère juste que cette chambre noire est dans les environs de Paris, qu'on puisse intervenir rapidement et mettre la main sur cette ordure. »
Nicolas avala sa salive, fixa son écran et enfonça la touche « Entrée ». Le globe terrestre, qui afficha au départ la France au centre de l'écran, se mit à pivoter vers l'est. Les pays défilèrent, comme s'ils étaient survolés par un satellite situé à des milliers de kilomètres dans le ciel. Europe de l'Est, Russie, Mongolie, Chine. Charcot regardait les territoires se succéder. Où l'homme en noir allait-il les emmener cette fois ? Quelles horreurs s'apprêtait-il à leur révéler par le biais de cette lettre manuscrite ? La Terre continuait à tourner, puis le satellite observateur donna l'impression de chuter alors qu'il survolait le nord-ouest de l'océan Pacifique. Le bleu de l'eau investit tout l'écran. Le satellite tombait si vite que les policiers n'eurent pas le temps de voir précisément sur quel endroit du monde il se fixait. Il s'immobilisa à quelques centaines de mètres de la surface de l'eau. Du liquide partout. Et une punaise jaune plantée par le logiciel au beau milieu de l'eau, à l'endroit exact indiqué par les coordonnées GPS. Franck plissa les yeux.
« Il n'y a rien. T'es bien certain des coordonnées ?»
Nicolas compara les chiffres qu'il avait entrés et ceux qui étaient inscrits sur son carnet.
« Oui ?»
Il dézooma, prit de l'altitude. 1000 mètres, 5 000, 20 000, et toujours le bleu de l'océan. Quand le satellite fut à 1000 kilomètres de hauteur, des torsions se dessinèrent sur ce bleu infini. Le logiciel affichait désormais les reliefs sous-marins. Une grosse faille noire semblait déchirer l'océan. À 2000 kilomètres, Bertrand Cazu percuta quand il vit apparaître des terres sur la gauche de l'écran. Les Philippines.
Ces coordonnées, on dirait qu'elles pointent en plein dans la fosse des Mariannes.
Nicolas fronça les sourcils. Il observait l'écran sans comprendre.
La fosse des Mariannes ? Il y a quoi là-bas ?
Rien que l'océan et les abysses. Si mes souvenirs d'école sont bons, il y a plus de 10 kilomètres de flotte à parcourir avant de toucher le fond.
Nicolas se prit la tête entre les mains.
C'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On envoie un sous-marin ?
En proie à la déception, chacun regagna sa place. Bertrand Cazeux désigna du menton l'énorme paquet de feuilles sorti du casier métallique et posé sur son bureau.
On fait le boulot ? On revient sur Terre et on épluche tous ces documents.
Et moi, je me colle à ma synthèse sur l'homme oiseau,
fit Levallois.
Idem pour moi, sur celle de l'homme en noir, ajouta Charcot. Allez, on ne lâche rien.